Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro et cet entretien du jour dans cette série des clés pour vivre dont le titre est le titre d'un ouvrage qui est paru récemment aux éditions Salvator et je reçois son auteur. Bonjour Éric de Russe.
Bonjour.
Vous avez écrit votre dernier livre, alors Oui. Vous devenez un spécialiste, permettez-moi avec un peu de légèreté et un peu d'humour de l'autisme. Votre livre s'intitule « L'autisme, une autre façon d'être au monde, mon voyage en neurodiversité » paru, et je viens de le dire, aux éditions Salvator. Alors c'est un monde, et vous en avez parlé vous-même hier en terminant ce premier entretien, un monde inconnu, un monde diversifié aussi, mystérieux, mais vous avez parlé de richesse, vous avez parlé vous-même de libération, oui. Et vous avez été diagnostiqué parce que c'était aussi une étape dans votre vie d'homme, c'était votre choix et le diagnostic est tombé. Voilà.
Oui.
Alors, expliquez-nous comment on peut parler de richesse, de libération, d'émerveillement dans ce voyage que vous avez fait. Et ce voyage vous a conduit à avoir, j'ai presque envie de dire, une humilité en tant qu'auteur jusqu'à l'écriture. Vous vous dévoilez, vous exposez et j'invite vraiment les auditeurs à devenir des lecteurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce monde riche qui vous a libéré et qui vous a émerveillé? Et je dis bien, on parle donc de spectre, de trouble, on parle, permettez-moi le terme, est-ce qu'on peut parler parfois d'handicap?
Alors voilà, vous soulevez beaucoup de questions. Alors tout d'abord, je partirai de la libération, parce qu'au moment où j'ai reçu le diagnostic, il est vrai que j'ai éprouvé ce que nous pouvons appeler une forme de libération ou de soulagement. C'est-à-dire que malgré tout, et beaucoup d'autres personnes qui ont fait cette expérience en témoignent, ça jetait tout à coup une lumière, ça rendait intelligible, a fortiori en philosophie on a besoin de rendre les choses intelligibles ou le plus intelligible possible, le plus compréhensible. Et donc voilà, ça me libérait d'une forme quand même de culpabilité, c'est-à-dire que je me disais que ce n'était pas faute d'un manque d'effort, ou etc., etc., que je n'arrivais pas à bien m'en sortir dans certaines situations, ou que je n'arrivais pas à dépasser immédiatement certaines difficultés, mais que cela était l'expression d'un mode de fonctionnement, d'une différence dans le traitement des informations, ou bien de difficultés réelles, comme celles qui sont liées à mon hypersensibilité sensorielle, à mon hyperacousie, bon, des choses. Donc voilà, donc c'est déculpabilisant parce que ce n'est pas une posture, ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas une pathologie, c'est une condition qui va s'accompagner d'un certain nombre de traits, de fonctionnement. Donc, en ce sens, c'est une libération. Évidemment, comme je le disais hier, la dénomination de diagnostic, donc déjà un diagnostic, c'est ce qui est posé ou confirmé par un docteur en médecine, spécialiste possiblement, mais dans tous les cas, ça relève bien donc d'un domaine médical. Donc, c'est une catégorie qui relève du champ médical. Et donc, immédiatement, vous pouvez vous demander, alors là, ça semble autrement bien loin d'une libération, vous pouvez vous dire, mais en quoi est-ce que je relève, quand on m'annonce que je suis autiste, du domaine du médical ou du pathologique, puisqu'en général, quelque chose qui relève du médical, et c'est une catégorie où on va essayer de vous guérir ou de vous ramener vers une situation dite normale. Or là, ce n'est pas une anomalie, c'est une différence. Et en même temps, je ne vous cache pas, moi, ce que j'entendais, c'était déficience, limite, etc. Alors oui, des limites, mais déficience, tout dépend de quel côté on se place. Et moi, j'ai voulu faire plutôt, enfin, mon intuition de fond, c'était, surtout à l'âge que j'avais quand j'ai reçu le diagnostic, c'était non pas que ce soit une entrave supplémentaire, mais comment est-ce que j'allais pouvoir frayer un chemin de vie, en faire quelque chose que j'allais pouvoir intégrer à la trame, à ma trajectoire, et en faire quelque chose. Et c'est là que la découverte de la neurodiversité était une approche tellement plus constructive, c'est-à-dire sans nier les difficultés, sans nier un certain nombre de limitations du fait d'un contexte aussi qui n'est pas toujours approprié, en même temps, je devais explorer les possibilités de cette situation, c'est-à-dire la richesse aussi de cette perception, marquée par un sens très poussé, par exemple du détail, d'une capacité à s'hyperfocaliser, à se concentrer, d'avoir ce qu'on appelle les intérêts, moi je déteste l'expression intérêt restreint, moi je dirais plutôt des passions ou des intérêts prévalents.
Donc au fond, dans cette aventure et dans cette étude, c'est d'explorer, de faire de cette aventure et d'en retirer tous les points riches et positifs et non négatifs.
En tout cas, sans faire l'impasse de difficultés que je ne nie pas et qui, dans certaines situations, sont ressenties réellement.
Vous en parlez dans votre livre.
Vous parliez de l'humilité à laquelle, dans laquelle ça vous met, à descendre d'un certain piédestal, de revoir, de sortir, je dirais aussi, de la fascination pour la performance, pour une certaine forme de toute puissance dans laquelle on est souvent, à laquelle on est incité, dans laquelle on est entretenu, pour dire non, en fait mes limites, en tout cas j'éprouve ma finitude à travers ces limites, et ces limites sont aussi liées à ma condition, mais ces limites sont aussi, j'aime à employer cette image, à la manière d'une partition, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de ces limites que je peux déployer quelque chose. Comme l'interprète, il est limité par une partition, mais à l'intérieur de cette partition, il a une très grande liberté pour déployer, pour nous faire entendre en fait quelque chose que nous n'avions jusqu'alors pas entendu. Et moi, je me suis dit, bien moi, qu'est-ce que je vais pouvoir déployer maintenant que je comprends mieux certains fonctionnements, comment je vais pouvoir m'en servir pour déjà les accepter, les nommer.
C'est la première étape.
C'est la première étape. Ouais, car vous me disiez à très juste titre, surtout avec un tel titre et dans un tel récit, même si je prends du recul par rapport à ma propre expérience pour tirer les fils, comme je disais, mais il n'en reste pas moins que le lecteur sait que c'est bien de moi et à partir d'une expérience singulière que je parle. Et donc, c'est de l'intérieur. Et donc, ça m'engageait, ça me dévoilait dans cette situation. Et donc, il est vrai que jusqu'alors, j'étais plutôt reconnu pour mes travaux en philosophie, par exemple sur Edith Stein, ou en poésie, ou des essais, mais sans que ni moi ni le lecteur n'aient connaissance de ce dont j'ai maintenant connaissance. Donc, c'est sûr que vous prenez le risque, à supposer que ça en soit un, que le regard des autres change, ou qu'on explique tout à partir de là, c'est-à-dire dès que vous rencontrez une quelconque difficulté, on se dit « oui, ben bon, c'est un autiste » ou « c'est parce que l'autisme ». Donc, bien sûr, ça c'est un risque, mais j'allais dire, le risque fait partie de l'existence. Tout engagement vous expose à risquer des choses. Donc, moi, l'enjeu n'était pas d'éviter par principe de risquer quoi que ce soit, mais d'assumer une dénomination, de la comprendre et d'essayer de partager les possibilités que recèle cette condition et de montrer que j'étais décidé à déployer quelque chose et à déployer ma liberté.
Et cette liberté qui vous conduit à cette cohérence, cette justesse aussi, qui vous ressemble. Les auditeurs vous connaissent peut-être déjà aussi en tant qu'auditeur et puis lecteur aussi de vos ouvrages, puisque vous avez rappelé que vous êtes aussi poète et que vous avez été, et vous êtes toujours spécialiste d'Edith Stein. Il y a ce souci pour vous et cette tension dans cette verticalité et la vérité dans vos actes et dans vos paroles.
La recherche de cohérence, donc la cohérence est un autre nom de la vérité, cette adéquation entre la pensée et les actes, entre l'être et la vie. Et il est vrai que nous pourrions nous laisser séduire par un discours au nom de la prudence aujourd'hui qui voudrait que, eh bien, on apparaisse d'une façon qui n'est pas conforme nécessairement à ce que nous sommes. Et a fortiori, lorsque nous avons une activité publique, on vous demande de soigner une image. A fortiori, quand vous avez des responsabilités académiques dans une institution, on vous demande bien de séparer les choses. Or, je suis désolé, je ne peux pas me scinder, mais je préfère envisager l'enjeu de l'existence comme un processus d'unification. Nous, l'être humain, rien ne rend l'être humain, à mon sens, plus malade que la division. Et d'ailleurs, pour le chrétien, c'est le sens même du péché, le fait de manquer la cible et de dévier. Et je crois au contraire que l'enjeu d'une vie, c'est d'aller dans le sens d'une plus grande unification de l'être. Et pour moi, cette unification passait par le fait que j'avais à intégrer ces données et avec les tensions qui sont incluses dans cette condition, mais je devais tendre et donc être vrai à l'égard de moi-même et donc à l'égard aussi du lecteur. Je le dis dès le départ, c'est respecter le lecteur que de signifier le point d'où on lui parle.
Alors, respectez-nous le temps, oui. Le temps de cette émission qui arrive à sa fin, pour vous rejoindre dans cette série dès demain, si vous le voulez bien. Éric de Rus, à demain.
À demain.